France Musique. France Musique, les grands entretiens, Anne Montaron.
Je m'appelle Élise, Josette, Louise, Angèle, Caron. Je suis chanteuse, j'écris, je compose, j'interprète le plus souvent, je joue la comédie. Et puis quoi d'autre ? Je vis.
Le secret de la situation politique. Les Ouménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Nippos de Pomédée. Les Nibonides de Ponaris s'entendent soit avec les Nippos de Ponédée, soit avec les Jabons de Carabule pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada, après naturellement s'être alliés avec les Bitules de Rotrarque ou après avoir momentanément, par engagement secret, neutralisé les Rigobettes de Billiguette qui sont situées sur le flanc des Colvites de Belay qui couvrent le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du territoire des Nippos de Pomédée, au-delà des brochus de Tosteboul. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une façon aussi simple.
Bonjour Élise Caron.
Bonjour Anne Montaron.
Le monde de la du conte, il vous a ouvert donc des portes vers quelque chose d'initiatique, il vous a donné des clés d'invisibilité, de magie, etc. Il mène aussi vers la poésie et le poétique, le monde du conte. Et la poésie, elle compte beaucoup dans vos textes, les textes que vous écrivez, Élise Caron. Et vous avez dit beaucoup de textes et vous chantez beaucoup de textes de poètes autres que vous. Donc ça, c'est un axe fort. Je crois que quand vous étiez petite, vous avez écrit quelques poèmes. J'ai vu ça quelque part.
Oui, je pense avoir déjà raconté cette histoire, mais je pensais qu'écrire des poèmes, c'était écrire penché. Quand j'étais petite.
Ah oui ? Parce qu'à chaque fois que vous écriviez des poèmes, vous écriviez penché.
J'écrivais penché.
Ouais. C'était plus stylé.
C'était romantique. C'était toujours peu romantique.
À quel âge vous avez écrit des poèmes ?
Je me souviens d'avoir écrit un à 9 ans. Que je crois que je connais encore.
On peut l'entendre ?
Oh, je ne veux pas exagérer. Non, non, mais c'est très bête, hein. C'était des trucs en « en », c'était des histoires de rimes, en fait. Je racontais pas grand-chose de spécial. C'était très pénétré, en fait. Il y avait des trucs un peu sur le jeu, comme ça, comme pouvait faire Bobby Lapointe, enfin, sur les jeux des mots, sur les... Mais il n'y avait pas vraiment d'esprit, hein. C'était juste pour le jeu. Il y avait une histoire de répétition de mots... entre les mains d'un volcan, par exemple. Il y avait un homme entre les mains d'un volcan. Voilà, je ne pouvais pas imaginer que les volcans n'avaient pas de mains, mais je serais capable d'écrire des trucs comme ça maintenant, hein, je pense.
C'était un catcheur des dimanches. Tous les samedis, il catchait. Et les autres jours, il se cachait dans les bois sous les branches. Et là, avec un dictionnaire, il faisait des vers solitaires. Mais son esprit rugueux ne trouvait rien de mieux que de faire rimer printemps avec j'y rentre dedans ou bien j'y casse les dents. C'était trop percutant et tout honteux. Il disait, c'est affreux, j'ai une fleur bleue contondante, je ne la montre pas à qui veut.
Cet humour de Bobby Lapointe, vous l'avez chevillé au corps depuis l'enfance alors, parce que...
C'est familial.
C'est familial.
Ouais.
On riait beaucoup dans la...
Il y avait beaucoup d'esprit.
Famille.
Beaucoup d'esprit. Très étendu sur toute la famille. Ça a été un bain, quoi, un bain d'esprit. C'était peut-être, d'ailleurs, d'une manière générale, la façon la plus directe qu'on avait de communiquer. Parce que, à côté de ça, on était plutôt très secret. Mm-hmm. Mais c'est salvateur, hein, l'humour.
Le deuxième degré, le décalage.
C'est obligatoire. Ça donne une distance sur les choses et, que je trouve... salvatrice, de regard sur soi-même, sans aller jusqu'au cynisme, mais un peu l'esprit.
D'autodérision.
Oui, oui, oui. Et puis justement, ça fait chercher des trucs sur les mots, sur le sens des mots, sur plusieurs sens des mots. Et ma poésie, si on peut parler de poésie, j'ai l'impression plutôt que c'est une espèce de petite rivière, comme un rue plutôt, qui va prendre une herbe ceci, une herbe de ce côté-là, des petits cailloux, des trucs comme ça qui assemblent, parce que les jeux de mots, comme on en a toujours fait, le fait de faire des jeux de mots en abîme, ça finit par faire de la poésie. Et ça finit aussi par donner l'essence, les plus loin, sens et l'essence plus profond, justement en passant par des chemins détournés. D'autant plus que qu'est-ce qu'il y a encore à dire, en fait, à part des choses poétiques, parce que on connaît maintenant, à travers la sophistication de la communication, tellement de... On est au courant de tout, quoi, dans des endroits les plus reculés, on sait tout. Et cette histoire qui n'en finit pas de se répéter avec toujours les mêmes schémas. Moi, je pensais, bêtement, dans les années 70, quand... j'étais un peu baba cool, hein, évidemment. Je suis une enfant de 68, hein, j'ai pas vécu 68, mais j'en avais les conséquences un peu. Comme le féminisme, je me disais pas féministe parce que j'étais née dans le féminisme, plus ou moins. Enfin, il y avait une espèce de continuité.
D'évidence, oui.
Oui. Au moment où j'ai découvert, comme chacun de nous découvre, que la dernière guerre avait fait tant d'horreur, que la Shoah avait existé, que la torture avait existé, quand je lisais des trucs, j'avais 13 ans sur ce qui se passait au Chili, par exemple, mais je ne pouvais pas imaginer. Pour moi, c'était quelque chose qui était fait, qu'on avait vu que c'était horrible, que ça avait été atroce. Et je pensais qu'on allait vraiment vers quelque chose qui allait s'éclairer, comme une naïve que j'étais. Et en fait, on voit à quel point c'est allé à l'inverse. Hein. On bascule là, vraiment. Je pense qu'il y a vraiment un enfer sur Terre. Et l'enfer, il est dans nos comportements.
Je suis une fleur empotée, empotée et rempotée. Je n'ai rien compris de ma vie. Hiver, été sont mélangés. J'avais pourtant tout essuyé, le vent, la pluie, les giboulées. J'avais pourtant suivi mon cœur de fleur. S'est arrêté. Car mes effluves lancées comme la sonde rodéo enlacent qui met son nez. C'est moi qui suis désarçonné. Je mettrai bien mes pleurs.
Et la poésie peut être donc un refuge.
Pour moi, la poésie, elle est très vaste. Hein. La poésie, elle est dans le regard qu'on pose sur la vie, sur tout ce qui est justement qui ne nous appartient pas, qu'on ne contrôle pas. Qui est, voilà, un enfant qui naît, qui rigole, qui fait des jeux de mots, la nature, les oiseaux. Les arbres qui poussent, le printemps qui arrive, les nuages qui passent, la couleur de la lune, les couleurs des ciels, les regards d'accueil, quelqu'un qui vous fait passer devant la voiture pour vous faire traverser avec gentillesse et pas avec un geste comme ça, comme si on était une espèce de machin qu'il faut comme un... Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on est... Que je suis un meuble, en fait, qu'il suffit de me pousser pour qu'on passe.
Pour que l'autre existe.
Ouais.
Qu'on revienne sur le conservatoire de Rouen et vos classes de musique, donc en flûte, en chant, puis en art dramatique. Est-ce qu'il y a des...
Et bien plus que ça.
Et plus que ça.
Ouais.
Harmonie.
Harmonie, oui, j'étais très très mauvaise en harmonie. Mais j'adorais mon professeur, que j'adore toujours d'ailleurs. Jacques Petit était mon professeur d'harmonie. Il me trouvait mauvaise et forcément donc je l'étais. Mais il le disait avec sourire, donc ça passait. Et avec lui, j'ai commencé au conservatoire, à 15-16 ans, un groupe de recherche d'improvisation musicale qui s'appelait le GRIMC. Et on se voyait à plusieurs, à 10, toutes les semaines après les cours, et on restait 2 heures ou 3 heures à improviser, avec des jeux musicaux. C'était lui qui était pas le professeur, mais le guide. Et ça aussi, ça m'a vraiment ouvert un horizon que je ne connaissais pas. Bon, les cours de flûte, évidemment, avec mon professeur.
Il y a eu d'autres professeurs marquants que ce professeur d'harmonie ou...
Oui, mais ma prof de chant, Edith Selig. J'ai commencé à 15 ans, mais je chantais déjà depuis très longtemps. Je chantais, en tout cas, pour moi et dans la chorale de ma mère. Et... Elle m'a laissé former mon goût. Elle m'a toujours laissé chanter ce que je voulais. Je m'ai jamais dit, oh, toi, c'était le rôle de Dorine, toi, tu peux faire du machin, du truc. J'ai pratiquement jamais chanté d'air d'opéra. Moi, je préférais la musique de concert, la musique d'église. Je trouve que c'est plus profond. Et la mélodie, parce que c'est comme des petits opéras de 3 minutes. Mais il y a des histoires et il y a des poésies, justement. Et ça aussi, une approche de la mise en musique de poèmes et la prosodie, c'était en général toujours merveilleusement écrit pour...
France Musique, les grands entretiens d'Élise Caron.
Oh,
en même temps, alors la musique d'orchestre aussi, l'orchestre à la flûte, j'ai fait la musique de chambre aussi, j'avais des, je faisais partie de petits groupes de musique de chambre, puis l'art lyrique, classe d'art lyrique, après mon bac, tout ça.
À Rouen toujours, là, ouais, on est déjà
et art dramatique. Donc la dernière année, après mon bac, j'étais tout le temps fourrée au conservatoire, entre harmonie, déchiffrage aussi, j'avais du déchiffrage, c'était génial. Et j'avais un prof aussi, Alain Mabi, qui était organiste et pianiste, qui a été à un moment donné mon professeur de solfège, et qui avait instauré, après chaque cours, j'étais assez mauvaise en dictée musicale, les dictées à trois sons, j'arrivais jamais à voir le troisième son. C'était bien un conglomérat que j'arrivais plus. Bon. Mais il avait instauré, après chaque cours, l'art de la première lecture. On se mettait tous à côté du piano, il mettait une partition, n'importe laquelle, à chanter, et il fallait qu'on se lance direct. Sans avoir, et il fallait interpréter évidemment. Et selon les premiers accords, je voyais à peu près le genre, l'époque, et je faisais tout un petit peu au pif, à l'oreille, en m'imaginant que voilà, si je tombe à côté et si l'accord vient juste après, ben je peux accorder au dernier moment. Il y avait des trucs de fil de ferriste un peu, et ça a été vachement important, l'art de la première lecture. Il y avait lui, mon prof d'art lyrique, Monsieur Bedex, qui était très très drôle, qui était vraiment super. Et là, je pouvais jouer et chanter, ça c'était cool. Et donc, l'art dramatique, dernière année, donc 78-79.
Que des bons souvenirs finalement.
Avec Monsieur Chevrin, oui. Que des bons souvenirs, absolument que des bons souvenirs. Mmh.
D'un coup, je crois que vous aviez 18 ans, Élise Caron, vous êtes repérée pour un tournage, pour votre premier film, première participation à un film. C'est Diane Curis qui vous a repérée ou c'est son équipe ?
Non plus.
Non.
Donc durant cette année art dramatique, Monsieur Chevrin avait décidé que j'étais douée et il a invité trois personnes qui faisaient du casting, et dont une qui était agent. Donc j'ai fait mes scènes, il y avait du Cocteau, je faisais le rôle du Sphinx. J'ai eu mon prix, Et le lendemain, ce monsieur, qui est devenu mon agent, Serge Rousseau, qui était un homme vraiment d'une grande gentillesse, que j'aimais beaucoup, m'a appelé pour me faire rencontrer la semaine d'après, début juillet 79, Diane Curis, qui cherchait son premier rôle.
Pour Cocktail Molotov.
Ouais. Et voilà, donc j'ai rencontré François Cluzet, qui m'a donné la réplique, plus Philippe Lebas, peut-être que, est-ce qu'il était déjà pris là, je crois pas, j'en sais rien. Si, on a fait un truc à trois, puisque c'était une histoire qui se déroule en mai 68, avec une épopée à trois. Et voilà, donc j'ai passé ce casting, je suis revenue chez moi, j'ai eu le scénario, je l'ai lu. Ah, il y avait des scènes de nu, donc déjà ça posait problème. Et puis...
À vous, à vos parents?
À moi. Et puis j'ai téléphoné là-bas. Et j'ai dit à l'assistant, parce que je n'ai pas eu Diane Curis, je lui ai dit, je voulais... Bonjour, c'est Élise Caron, je voulais vous dire que si Diane Curis me voulait pour le film, moi je ne veux pas.
C'était courageux, culotté.
C'était pas courageux, c'était pas du tout courageux, c'était pas possible.
Oui.
Parce que scène de nu, pas possible. Et je pense que c'est ça qui lui a donné l'envie, j'en sais rien, peut-être que si elle est... Diane, si tu m'écoutes, je ne sais pas du tout si c'est ça, mais je pense que ça l'a piqué. Mm. Parce que j'étais pas la seule à passer des castings pour un premier rôle, il y en a eu plein quand même. Mm. Et je pense que c'est pas le genre de truc qui se refuse quand on a 17 ans.
Évidemment.
Et elle m'a fait venir à Paris. Donc on s'est vu pendant 3 heures et on a discuté pendant 3 heures de beaucoup de choses sauf du film. Et voilà, une fois que c'était passé ces 3 heures, j'étais prise pour le rôle et elle m'a rassurée sur plein de trucs, y compris sur ces scènes de nu qui n'étaient pas, c'était pas non plus des scènes de sexe, hein, ça n'a rien à voir, donc c'était pas pire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Et que ça s'est arrêté d'ailleurs.
Pas tout à fait.
Plus ou moins. Mmh. Enfin, en tout cas, dans ce côté-là de...
Mmh. Et cette plongée dans l'univers du cinéma, alors, pour vous qui étiez
musicienne...
Ouais.
Adoré. J'étais musicienne et j'avais fait ce truc de comédie-là qui m'a énormément plu. Le théâtre m'a vraiment, vraiment plu. C'était génial, l'ambiance, j'ai trouvé ça super. Et puis j'avais les yeux écarquillés tout le temps, puis de voir tous ces gens travailler pour une même œuvre, le maquillage, le costume, la lumière, le son, les décors. Je me suis jamais ennuyée, j'ai jamais attendu. J'étais tout le temps, ça m'intéresse de ça m'a toujours intéressé de rencontrer ceux qui travaillent pour. Alors, moi, j'aurais bien continué.
À 18 ans, dans le miroir de la caméra de Diane Curis, et comme on parle miroir, nous écoutions à l'instant Je me préfère à l'envers, texte, musique et interprétation, Élise Caron. Fin du deuxième épisode de ces grands entretiens, réalisation Anne-Pascale Desvignes, avec Marie le Peintre, Yves Lehorse et Marie-Christine Ferdinand. La suite de ce portrait, demain.
Me flatte, me reflète, c'est le...
À réécouter sur francemusique.fr.